Regard chrétien sur le monde.
Le débat sur l'homosexualité n'est pas nouveau, mais il demeure vif au sein de nos sociétés, comme le dernier synode de l'Église anglicane l'a montré récemment. Les primats anglicans ont ainsi demandé à la branche américaine de leur Église de clarifier sa position sur le mariage homosexuel, autrement dit de renoncer à célébrer des unions de couples homosexuels. Les exemples du Pax en France ou du Dico ces dernières semaines en Italie l'ont montré également. Alors que dit au juste la Bible sur ce sujet toujours d'actualité ? Eh bien, l'Ancien Testament ne dit rien de clair sur l'homosexualité. Le seul texte qui ne soit pas ambigu est un commandement du Lévitique qui condamne l'acte homosexuel entre deux hommes, car il vaut mieux parler de comportement homosexuel. L'homme biblique est quelqu'un de concret. Or, le terme d'homosexualité est un concept et un terme développé au XIXe siècle pour désigner la réalité psychologique. C'est ce que soulignent trois chrétiens, un pasteur protestant et deux prêtres catholiques qui ont voulu voir ce que les Écritures saintes disent précisément. Ils ont ainsi coécrit « Clarification sur l'homosexualité dans la Bible » aux éditions du Cerf. Nous avons interrogé l'un d'eux, le père Jean-Baptiste Hédard. Il est prêtre du diocèse de Rouen et professeur à l'Institut Jean-Paul II d'études pour le mariage et la famille où il enseigne l'Écriture sainte. Il s'est intéressé plus spécifiquement à l'étude des évangiles et aux lettres de saint Paul.
La seule chose qui est dite, mais qui est la plus importante à mon avis, c'est que jamais Jésus ne va condamner une personne. Quel que soit son comportement. C'est cette miséricorde et cet accueil du pécheur, quel qu'il soit. Donc ça, si je crois s'il y a quelque chose qu'on a à retenir essentiellement de l'Évangile, c'est cette attitude d'ouverture et d'accueil de Jésus, ce qui n'est pas un accord donné de principe à tout comportement. Et là, pour si on va avoir un jugement moral de la part de l'Écriture sur les actes homosexuels, il faut se référer à saint Paul, où là, les choses sont abordées explicitement. Saint Paul, lui, dans ce texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 1, n'a pas pour objectif de parler des actes homosexuels. Mais il veut illustrer la nature de l'impiété, de ce qui en l'homme s'oppose à Dieu. Et il utilise pour cela les actes homosexuels qui, dans la tradition juive, sont caractéristiques des païens. C'est ce qui caractérise les peuples païens, ils pratiquent ouvertement les actes homosexuels. Et pour cela, saint Paul utilise deux récits, le récit de la Genèse, de la création, en Genèse 1, et puis un autre texte qui n'est pas un récit, excusez-moi, qui est un texte législatif du Deutéronome, et il établit le lien entre homosexualité et idolâtrie, ce qui est spécifique à Paul. Ça ne se retrouve pas dans la tradition juive ou dans la Bible, à d'autres passages, l'association entre idolâtrie et homosexualité. Entre idolâtrie et débauche sexuelle, oui, mais spécifiquement homosexualité, non. Dans l'idolâtrie, en fait, qu'est-ce qui se passe ? L'homme est dominé par la créature qu'il adore. Il se prosterne devant la créature. Or, seul le créateur peut être adoré. Donc, il y a comme une inversion du projet du créateur. Eh bien, ce qu'il vit au niveau religieux va être symboliquement manifesté dans sa sexualité. L'acte homosexuel ne prend pas en considération la différence sexuelle qui a été voulue par Dieu, qui est la trace dans la chair du projet de Dieu pour l'homme. Et l'acte homosexuel nie cette différence. Et c'est pour ça que l'idolâtrie va trouver dans l'acte homosexuel, selon saint Paul, une bonne illustration, parce que comme dans l'idolâtrie, on refuse de rendre à Dieu ce qui lui revient, on nie le projet divin, dans l'acte homosexuel, eh bien, on va nier le projet divin de communion entre l'homme et la femme en détournant celui-ci. Donc ça, c'est une première chose que nous permet de découvrir ce texte. Une autre chose, c'est vrai que c'est un texte qui est difficile à lire. Il y a des expressions difficiles et une de ces expressions est l'expression « contre-nature ». Alors, il y a beaucoup de discussions chez les exégètes autour de cette expression, chez les spécialistes. À l'époque, contre-nature dans la culture gréco-romaine était contre-nature un acte qui ne respectait pas les conventions sociales. C'était pas lié à la sphère sexuelle spécifiquement, c'était beaucoup plus large. Mais dans le domaine de l'intimité, comme dans le domaine de la société, quelle était la norme chez les Romains ? Eh bien, il y avait un dominé et un dominant. Le maître devait dominer sur les esclaves. Il devait dominer sa femme, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de l'existence. Et à partir du moment où on ne respectait plus ce rapport de domination, c'était contre nature. Ça allait contre la convention sociale. Alors, on pourrait être tenté d'appliquer cette vision des choses au texte biblique. Mais ça serait appliquer quelque chose, une conception gréco-romaine, romaine spécifiquement, à un texte qui, lui, est de culture juive. Et ça serait une erreur. Qu'est-ce que contre-nature peut, comment est-ce que ça peut être compris ? On peut voir ici, contre-nature, une référence à l'ordre voulu par Dieu et identifiable dans la création. C'est comme ça ensuite que la tradition de l'Église l'a compris. Mais contre-nature peut être compris en référence au récit de la création, en Genèse, présente une structure claire de la relation homme-femme comme étant une relation de communion. Et Dieu a voulu l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Et cette volonté divine ou cette loi divine est inscrite dans la nature, y compris à travers la génitalité. Et contre nature voudrait dire que on va contre ce qui est inscrit dans la nature de l'homme, contre le projet du Créateur. Alors si on veut utiliser la convention romaine, hein, le sens romain de l'acte, de ce concept de contre-nature, l'acte contre-nature est l'acte qui ne respecte pas la convention sociale établie par Dieu dans la création.
Est-ce qu'on peut considérer que dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, tout ce qui est relatif à l'homosexualité, de près ou de loin, n'est finalement que le produit de leur époque et surtout d'une volonté de renforcer leur côté unique?
Il faut distinguer deux choses dans la lecture du texte biblique. Il y a tout d'abord les circonstances historiques. Certains ont dit, mais c'est parce que la conception de Dieu a changé entre le 5e et 6e siècle. On est passé d'un Dieu, le Dieu biblique jusqu'au 6e siècle, était un Dieu qui avait une déesse qui lui était liée. Et au 5e siècle, Israël, retour d'exil, découvre et met en valeur le Dieu unique, donc asexué. Et alors, à ce changement de perception de Dieu correspondrait un changement de perception de la sexualité. Ça ne relève que d'une hypothèse, et ça ne tient pas compte d'un élément extrêmement important, c'est que, au-delà des conditions historiques de la naissance d'un texte biblique, ce texte a été assumé dans l'ensemble que forme la Bible. C'est-à-dire que les auteurs bibliques, postérieurs à la rédaction du texte, ont reçu le texte comme disant quelque chose qui est valable au-delà du moment précis où il a été rédigé. Sinon, si on utilise cet argument-là, on devrait dire que, par exemple, tel texte rédigé par Luc a été rédigé pour souligner le fait que les païens faisaient désormais partie du peuple élu et étaient eux aussi sauvés. Et qu'il s'adresse là à une communauté chrétienne originaire du paganisme, ou Matthieu à une communauté chrétienne originaire du judaïsme. Alors si on prend le cas de Matthieu, est-ce que ça voudrait dire que les textes rédigés par Matthieu en fonction de sa communauté chrétienne originaire du judaïsme n'auraient plus de valeur pour nous aujourd'hui? Vous voyez, on ne peut pas lier le sens d'un texte aujourd'hui strictement aux conditions historiques de son écriture. L'intégration de ce texte dans la Bible donne à ce texte une valeur pérenne. Alors, la difficulté et l'actualisation du texte. Ce qui est intéressant, c'est donc ce texte a été reçu au-delà des circonstances historiques de sa rédaction comme étant parole de Dieu. Et lorsque saint Paul parle des actes homosexuels, au chapitre 1 de l'Épître aux Romains, il fait allusion, donc je l'ai dit, au récit de la Genèse, mais il conclut son texte en disant, et je vous rappelle que ces actes sont passibles de mort. Il fait donc la référence au texte du Lévitique, ce qui montre bien que saint Paul a une lecture de ces textes qui va au-delà des circonstances historiques précises de la rédaction du Lévitique. Et ce mécanisme d'actualisation était donc connu au moment où la Bible s'est écrite au fur et à mesure des différentes périodes. Tout simplement, les premiers chrétiens, à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, quand ils ont accueilli les différents évangiles, les lettres de Paul, connaissaient les circonstances historiques de la rédaction de ces évangiles et de ses lettres. Mais ils les ont accueillis comme parole de Dieu dans le canon de l'Écriture, dans l'ensemble formé par le Nouveau Testament, parce que précisément ils reconnaissaient que ces écrits avaient une valeur qui allait au-delà de la dimension des circonstances historiques de leur rédaction. Donc, même si certaines hypothèses, qui ne seront toujours que des hypothèses, disent que tel ou tel commandement concernant les actes homosexuels est lié à tel ou tel contexte, cela n'invalide en rien la valeur de ces textes pour aujourd'hui.
Le père Jean-Baptiste Hédard nous parlait aujourd'hui dans Regard chrétien sur le monde de l'homosexualité dans la Bible.